Il est 15h. Bon après-midi à tous. 15h, 16h. Olivier Delacroix sur Europe 1.
Bonjour à tous et à toutes. Vous êtes sur Europe 1. Nous sommes ensemble et en direct jusqu'à 16h. Je suis Olivier Delacroix, je suis ravi de vous retrouver comme chaque jour pendant une heure en compagnie de ma camarade Ambline. Comment allez-vous, ma chère, aujourd'hui?
Ça va bien, bonjour Olivier.
Comme d'habitude, en fait.
Mais oui,
ce qui
on est content d'être là.
C'est que voilà, nous sommes toujours très contents d'être
Mais
là.
Oui.
Pendant cette heure, nous partageons, comme vous le savez, vos expériences de vie, qu'elles soient agréables, positives ou plus difficiles, car Europe 1 s'intéresse à votre vécu. Nous avons tous ou presque un smartphone et bien souvent, il nous sert pour tout, partout. Si les smartphones sont de véritables outils de communication, leur utilisation peut aussi s'avérer néfaste, notamment dans le couple, lorsque votre téléphone vous suit partout, à table, au lit, et que vous y êtes accro. Ça a un nom, le phubbing, un nouveau nom. Ce phénomène ravageur pour le couple vient de la fusion entre le mot anglais snubbing, qui veut dire snobé en anglais, et phone pour téléphone. Téléphone. Donc êtes-vous complètement accro à votre téléphone au point que cela gêne la personne qui partage votre vie? Le téléphone a-t-il déjà provoqué des conflits ou de la jalousie dans votre couple? En soi, est-ce que ce portable est un véritable tue-l'amour ou un problème dans votre couple? C'est notre sujet d'aujourd'hui sur Europe 1.
Et n'hésitez pas à témoigner le 39-21 pour venir nous raconter votre histoire. Le standard d'Europe 1, jusqu'à 16h39-21, vous nous écrivez via le groupe de l'émission sur la page Facebook d'Europe 1 et Twitter, hashtag Europe 1.
15h-16h, partageons nos expériences de vie avec Olivier Delacroix sur Europe 1.
Et nous accueillons Marine au 39-21. Bonjour Marine, quel âge avez-vous et d'où nous appelez-vous?
Bonjour, alors j'ai 35 ans et je vous appelle de Paris.
D'accord, alors vous avez un smartphone, vous me confirmez?
Oui, c'est ça.
Ouais. Et vous êtes accro à votre portable depuis combien de temps exactement?
Eh bien là, ça commence à faire quelques années maintenant où je suis toujours avec mon téléphone près de moi.
Alors voilà, je vous pose cette question, accro à votre téléphone. Est-ce que finalement c'est vous qui vous êtes formulé à un moment ça, je suis accro à mon téléphone, ou est-ce que c'est votre entourage qui a fini par vous dire attention, tu es accro à ton téléphone?
Alors c'est à force de m'entendre dire que j'ai pris conscience d'être constamment sur mon téléphone, parce que sinon moi je ne m'en rends absolument pas compte.
Et ça se traduit comment en fait ça, le fait qu'on vous dise que voilà, vous êtes accro à votre téléphone, vous l'emmenez partout avec vous?
Oui, il est toujours avec moi, que ce soit au restaurant, il est toujours posé sur la table, ou dans ma poche, ou dans ma main, enfin je l'ai constamment avec moi, quoi. Il ne me quitte jamais.
Et pourquoi ça finalement?
Pourquoi? C'est une bonne question. Je ne sais pas, c'est devenu une habitude, un toc.
Quelle utilisation vous en faites? C'est pour, vous avez des enfants, Marine?
Oui, j'ai deux enfants. Je l'utilise même avec eux pour leur faire écouter de la musique ou avoir des idées de dessin. Pour moi, pour les réseaux sociaux, pour les messages. Enfin, il me sert vraiment, à tout, quoi.
C'est lorsque ce smartphone est arrivé dans votre vie, en fait. C'est plus les dernières années où j'ai l'impression qu'il y a vraiment une démultiplication des applications et de l'utilisation qu'on en fait. Vous êtes senti complètement absorbé par cette utilisation de ce smartphone, ou vous vous êtes pas rendu compte finalement que c'était devenu un objet, mais visiblement, donc vous étiez devenu complètement accro?
Non, moi je m'en suis pas rendu compte du tout. En fait, je m'en rends pas compte, mais c'est, enfin, j'ai plus pris conscience du problème quand ce sont mes enfants qui m'ont fait remarquer, que j'étais sur mon téléphone tout le temps. Ils me disent, mais je te parle, t'es sur ton téléphone. Ou, enfin voilà, c'est vraiment eux où je me suis dit, là, il y a vraiment un problème. Si eux me le disent, c'est qu'il y a vraiment un souci, quoi.
Alors aujourd'hui, on parle de ce téléphone et notamment dans le couple. Est-ce que ce smartphone a été un problème à un moment pour votre mari, votre compagnon, ou je ne sais pas, en fait je ne vous ai pas demandé, vous êtes marié ou divorcé?
Non, je suis divorcée et ça a été un souci, où j'étais constamment sur mon téléphone, même à table.
Oui.
Mauvais exemple pour les enfants, mais oui, je l'avais toujours avec moi et j'avais des réflexions du genre, mais je te parle, tu m'écoutes pas, alors que pas du tout, je peux très bien écouter quelqu'un, mais je peux pas m'empêcher de répondre à un message. Et oui, c'est
combien de temps vous passez sur votre portable en règle générale?
Je, je n'ai pas calculé, je ne pourrais pas vous dire, mais j'y suis tout le temps en fait, et je l'éteins jamais. Et même le soir, je le mettais sur ma table de nuit, et quand je recevais un message, ça vibrait, c'était assez bruyant, et du coup, je le mettais sous mon oreiller pour atténuer le bruit, mais je l'éteins jamais.
Donc, ouais, sous l'oreiller, carrément.
Oui, c'est ça.
Vous savez qu'il existe, c'est ma fille, hein, moi qui a 14 ans, qui m'a montré l'autre jour que vous pouvez voir désormais, il y a une application, même liée à tous les smartphones, hein, je crois, qui peut vous montrer... le temps d'utilisation que vous avez de votre smartphone. Et en plus, il y a un jugement qui suit, c'est bien, c'est pas bien, attention. Vous l'utilisez, ça, par exemple ?
Non, pas du tout. Non, j'ai pas été voir ça.
Est-ce que ce téléphone, donc, il a été un réel problème au sein de votre couple ?
Oui. Oui, parce que j'étais constamment dessus. Il y avait des réflexions, il y avait des... j'avais vraiment l'impression que c'était du coup on n'était plus deux mais on était trois. Il était là, c'était un objet en plus qui n'aurait pas dû être là, quoi. Bon. Que ça soit dans la chambre ou à table.
Et est-ce que vous êtes d'accord avec cette remarque là que vous n'étiez plus deux mais trois?
Moi oui. Bah après, enfin aujourd'hui oui, je me rends compte. Sur le coup, je me rendais pas forcément compte quand on me disait les choses. Je me disais mais non, mais c'est normal. Enfin c'est que tout le monde fait la même chose. Enfin voilà, c'est il n'y avait rien de particulier, mais aujourd'hui, avec du recul, je me rends compte que oui, c'était un objet en plus, en fait, oui.
Mais sur le coup,
je ne me rendais pas compte.
L'utilisation, vous n'avez pas moins utilisé?
Non. Aujourd'hui, j'essaye de moins l'utiliser. Depuis que vraiment mes enfants me font la remarque, comme je vous ai dit, j'essaye de faire des choses. Je le pose, je le reprends plus tard. Voilà, c'est un début. C'est pas évident. J'ai pas cette habitude-là encore de m'en séparer, mais il va falloir le faire, quoi, sérieusement.
Ça sera ma dernière question, Marine. Est-ce que ce téléphone, ce smartphone, il est comme une prolongation de vous ?
Oui, complètement. Il fait partie de moi, en fait. Quand je l'ai pas, je me sens nue, en fait. Il manque quelque chose.
Et il manque quoi, alors ?
Bah, je sais pas. Il manque quelque chose qui me met en relation avec des gens ou quelque chose. Enfin, je sais pas.
Ce qui veut dire que vous avez l'impression d'être seul si vous le perdez, par exemple, quelques heures, parce qu'on sait en plus qu'aujourd'hui tout est tellement si bien fait que vous pouvez en récupérer un. Voilà, les opérateurs sont tous plus performants les uns que les autres pour vous faire récupérer un téléphone si vous le perdez. Si vous le perdez, vous vous sentez vraiment mal ?
Oui, l'autre fois, je l'ai laissé en réparation. Je ne l'ai pas eu peut-être pendant 2 heures. Et parfois, je mettais mes mains dans les poches. Ah, je n'ai pas mon téléphone, mais il est où ? Ah, c'est vrai, je ne l'ai plus. Mais oui, ça me manquait énormément. Oui, c'était vide. Ça devient vide.
Bon courage, Marine. Merci pour votre appel et votre témoignage sur Europe 1. Dans quelques instants, nous accueillerons Paulette. Elle est influenceuse, c'est son métier. Et forcément, voilà, elle passe beaucoup, beaucoup de temps sur son téléphone, contrairement à son conjoint.
Europe 1. Comme Marine, vous ne pouvez pas vivre sans votre portable, vous êtes accro, quitte à ce que ce smartphone prenne trop de place dans votre vie de couple, vous nous racontez sur Europe 1 au 39-21 et j'espère que votre conjoint ne vous en voudra pas trop. N'hésitez pas à prendre votre smartphone pour nous écrire sur Twitter, hashtag Europe 1. Le téléphone qui prend beaucoup de place. Bon vendredi après-midi avec Olivier Delacroix. Vous composez le 39-21 pour nous dire à quel point votre smartphone prend une place importante dans votre quotidien jusqu'à agacer la personne qui partage votre vie.
Et nous avons eu Marine au 39-21 qui nous expliquait combien ce smartphone avait pris de la place dans sa vie et continuait finalement, même si elle avait quelques remarques de ses enfants qui lui disaient lève le pied un peu sur le téléphone maman. Nous sommes maintenant avec Paulette. Bonjour, soyez la bienvenue sur l'antenne d'Europe 1, Paulette.
Merci beaucoup, bonjour.
Bonjour, quel âge avez-vous et d'où nous appelez-vous ?
Alors j'ai 27 ans et j'habite Troyes.
Vous habitez Troyes, dans l'Ain,
oui.
C'est ça ?
Exactement.
Je vérifie à chaque fois parce qu'avec Ombline, on fait un petit concours tous les
deux. Dans l'Aube, oui. Exactement, mais c'est juste à côté.
Dans l'Aube, j'ai perdu, vous voyez. Alors Paulette, vous êtes sur les réseaux sociaux depuis plus de 5 ans.
Oui.
Et aujourd'hui, c'est même donc devenu votre métier. Ça veut dire quoi, être influenceuse ?
C'est-à-dire qu'au quotidien, on partage un petit peu nos envies, nos besoins et nos coups de cœur.
Oui.
Et puis après, on en discute avec nos communautés et on partage également nos avis. Voilà.
Et sur quel support vous le faites ?
Donc, sur nos réseaux sociaux, donc Instagram, Facebook, Twitter, LinkedIn aussi, ça arrive.
Oui, d'accord.
Voilà. Et notre blog.
Mm-hmm. Et alors, c'est devenu votre métier. Comment ça peut devenir un métier, ça, aujourd'hui?
En fait, on est... C'est comme avant. Ça existe encore, mais avant, les marques faisaient appel à la radio, par exemple, à la télé, etc. Ils font énormément de pubs dans les magazines également. Et aujourd'hui, on est un support de communication aussi pour les marques.
D'accord, un support de communication supplémentaire. En tout cas, vous
voilà,
devez passer.
Voilà, exactement.
Vous devez passer beaucoup de temps sur votre téléphone, alors.
Il est greffé.
Greffé, carrément.
Tout simplement greffé. Ah oui. Mm-hmm.
Vous avez déjà eu envie de ne plus l'utiliser, ce téléphone, ou c'est impossible?
C'est juste impossible, tout simplement.
Alors, vous êtes aujourd'hui en couple avec quelqu'un qui n'utilise pas ou très peu les réseaux sociaux et son téléphone. Comment est-ce que vous vous arrangez avec tout ça? Parce que je suppose que ça... Voilà, vous qui me dites que votre téléphone est greffé à votre main, comment ça se passe?
Malgré tout, ça a été créateur de conflits au départ,
ouais.
Ça c'est sûr. Et puis maintenant, on arrive à... après discussion, de poser notre téléphone tout simplement et puis d'essayer de ne pas regarder en fait ce qui se passe sur les réseaux sociaux, entre autres.
Mmh. Quel type de conflit cela a pu créer entre vous?
C'est une omniprésence. Par exemple, quand on va au restaurant, on regarde son téléphone et finalement on a l'impression de passer 30 secondes sur son téléphone, mais ça peut vite déraper sur 5 minutes. Donc 5 minutes, quand on est au restaurant, c'est pas agréable pour l'autre. Ou alors tout simplement devant un film, à la maison, voilà. Mm-hmm. C'est l'omniprésence.
Est-ce que donc vous arrivez à avoir des moments tous les deux où vous convenez l'un et l'autre de ne plus utiliser votre téléphone?
Oui, maintenant, mais vraiment après discussion.
Alors, dans le maintenant, justement, j'ai entendu que, justement, la longueur de ces discussions, ça a été long, ces discussions, ces parlementations?
Oui, surtout que mon ami déteste les réseaux sociaux. Il trouve que c'est un petit peu, c'est un peu du voyeurisme pour lui. Mmh. Il comprend pas. Parfois, il a l'impression que c'est plus du voyeurisme que de la publicité.
Mmh. Est-ce que ça a été un vrai exercice pour vous, surtout, d'avoir ces moments-là sans téléphone?
Ça n'a pas été une zone de stress non plus, mais j'étais contente de retrouver à chaque fois mon téléphone, de me dire oh, alors qu'est-ce qui s'est passé pendant que ça a créé une petite addiction quelque part.
J'ai cru que vous alliez me dire en fin de compte, je me suis rendu compte que j'étais contente de retrouver mon fiancé, mais non, vous m'avez dit j'étais contente de retrouver mon téléphone.
Mon fiancé aussi, mais.
vous plaisantez, votre conjoint s'est créé un compte Instagram, racontez-moi pourquoi en fait, est-ce que c'est en réaction à quelque chose?
Alors, c'était par rapport justement à une discussion. En gros, sur Instagram, je m'appelle Paulette Ditou. Du coup, pour me faire comprendre ou passer un message, il a créé un compte et il s'est appelé Henri Dirien.
Pour communiquer avec vous, du coup.
Exactement. Mmh. Mais c'était aussi de la bienveillance, parce que malgré tout, il y avait un petit message. Mais parfois, il poste des photos et il me dit « Ah, t'as vu, j'ai posté aujourd'hui ». Donc, c'est aussi de la bienveillance par rapport à mon métier qu'il ne comprenait pas au tout début.
Bon, on sent en tout cas que ça n'est pas un tue-l'amour chez vous et que ça a fini par être compris par l'un et par l'autre. On peut vous trouver où aujourd'hui sur Internet, Paulette? Alors, vous vous appelez comment? Dites-moi.
Eh bien, sur notre blog, donc je suis avec Carole Anana sur Instagram.
Ouais.
Et notre blog, c'est patsaladentrenous.com. Et sur Instagram, je m'appelle Paulette Ditou.
D'accord.
Tout simplement.
Eh bien, merci Paulette. On croisera sur Internet alors bientôt. Merci pour votre appel et votre témoignage. Et dans quelques instants, nous allons accueillir Robert Neuburger. Pardon. Il est psychiatre et thérapeute du couple.
Europe 1. Quand le smartphone prend beaucoup trop de place dans votre vie de couple, on a envie de vous entendre. Au 3921, vous nous écrivez, nous vous lisons via le groupe de l'émission sur la page Facebook d'Europe 1. Le smartphone peut être très utile dans les relations longue distance ou pour entretenir la flamme. Mais qu'en est-il quand il se place entre vous deux physiquement? Le smartphone, source de conflits à la maison, vous témoignez au 3921. Vous êtes avec Olivier Delacroix.
Et nous sommes maintenant en ligne avec Robert Neuburger, psychiatre et thérapeute du couple. Bonjour docteur, soyez le bienvenu sur l'antenne d'Europe 1.
Merci.
Bonjour.
Merci.
Alors,
de votre invitation.
Je vous en prie. Nous avons tous un smartphone, hein, en tout cas presque tous, hein, puisque ceux qui n'en ont pas passent un peu pour des extraterrestres. Qu'est-ce que vous remarquez ? Est-ce que c'est de plus en plus une source de conflit dans le couple lorsque vous recevez vos patients ?
Alors, écoutez, on peut dire que le smartphone est devenu un partenaire des couples. Ça, c'est très très clair. En ce qui me concerne et les situations que je vois, c'est en général les situations, bien évidemment, où il y a des difficultés, et ça peut être pour la raison qui a été exposée par vos auditrices là, précédemment, les deux jeunes femmes qui sont intervenues, c'est-à-dire que ça fait intrusion dans l'intimité du couple. Elles l'ont dit assez clairement.
C'est ce qui est le plus fréquent, docteur, finalement, cette remarque, voilà, ce smartphone, il est là, il est trop présent. Est-ce que c'est la raison la plus fréquente de problèmes que peuvent rencontrer les couples ? C'est-à-dire que, comme l'évoquait Marine, nous n'étions plus à deux, mais à trois, en fait, finalement.
Oui, mais je dirais que le problème le plus grave, c'est pas celui-là. C'est le fait que la plupart des relations extra-conjugales sont découvertes sur le smartphone de madame, soit de monsieur.
Bon, vous conviendrez, docteur, que pour ça, il faut quand même, il n'y a pas que le smartphone, il faut fouiller pour ça.
Oui, mais c'est la première chose quand une personne a un doute sur la fidélité de l'autre, la première chose qu'elle va faire, c'est regarder dans son smartphone. Mm-hmm. Et malheureusement, elle trouve très souvent des traces tout à fait claires de ce qui peut se passer. Donc,
c'est la raison la plus fréquente, en fait, des couples qui viennent vous voir et le fait qu'on ait trouvé des traces de choses pas nettes dans le smartphone.
Oui, c'est pas seulement qu'elles sont pas nettes, c'est le problème, c'est qu'elles sont très claires.
Ah, d'accord, oui. Mmh. Comment vous positionnez, puisque je rappelle que vous êtes psychiatre et thérapeute de couple, comment vous vous positionnez par rapport à ces couples qui viennent vous voir qu'est-ce que vous leur dites à ces couples par rapport à ce smartphone?
L'idée de base, c'est qu'un couple, c'est deux êtres qui se créent une intimité partagée.
Oui.
C'est-à-dire quelque chose qui est protégé du monde extérieur. Mm-hmm. J'ai fait un bouquin d'ailleurs là-dessus qui s'appelle « Les territoires de l'intime ». Et le smartphone, là, vient faire irruption, donc de deux façons, soit par un usage abusif. Et effectivement, on a entendu la première intervenante qui était complètement dépendante de son
téléphone. Son smartphone, oui, Marine.
Mmh. Oui, mais en même temps, d'ailleurs, j'avais une curiosité non assouvie, c'est que à quoi il lui servait ?
En fait, Marine nous expliquait que c'était vraiment un objet qui était devenu indispensable à sa vie, hein, puisque elle n'évoquait pas de relation extra-conjugale, hein, ou à moins qu'elle nous ait caché quelque chose, mais c'était plus une surutilisation de ce smartphone, en fait.
Mais ça veut dire qu'elle pouvait, parce qu'on peut faire un tas de choses avec un smartphone, on peut jouer, on peut être accro à des jeux, on peut être accro à des
réseaux
communications,
sociaux.
Des rapports sociaux, c'est assez varié. Donc une des premières, une des difficultés, c'est ça, c'est-à-dire que ça fait intrusion, ça fait tiers. D'ailleurs, vous l'avez très bien dit, on se retrouve trois avec l'iPhone et à un certain moment, ça finit. Enfin, ça fait encore une fois, ça fait intrusion dans cette construction qui est fragile. L'intimité d'un couple, c'est quelque chose de fragile. C'est-à-dire tout ce qui vient faire irruption sans qu'on le souhaite va devenir un problème. Le problème est plus ou moins marqué.
Comment expliquer que nous n'arrivions pas parfois à déconnecter alors que nous sommes justement dans un moment d'intimité avec l'autre ?
Mais là, c'est très difficile parce que c'est ce qu'on appelle un symptôme. C'est-à-dire c'est une difficulté. Maintenant, la raison pour laquelle la personne est accro à son iPhone, ce sont des raisons très personnelles. C'est-à-dire, c'est une assuétude, c'est une dépendance, comme une drogue. À cet égard, c'est plus une solution qu'un problème. C'est quelquefois qu'il y a des gens qui ont des angoisses de séparation ou des angoisses d'existence, des difficultés psychologiques, mais qu'on peut pas, on peut pas généraliser.
Bien sûr.
À chaque fois, il faut aller regarder, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi cette jeune femme était tellement dépendante de cet engin? Qu'est-ce que ça représentait pour elle?
Qu'est-ce que ça veut dire?
On a vraiment l'impression que c'était quelque chose qui la rassurait, qui la existait. Ce qui est comme certains toxicomanes.
On parle plus donc de symptômes, finalement, lorsque on soulève un détail sur l'utilisation de son téléphone. Robert Neuburger, vous restez avec nous. Je rappelle que vous êtes psychiatre et thérapeute du couple. Vous me rappellerez tout à l'heure le titre de l'ouvrage que vous avez écrit d'ailleurs et le nom d'éditeur pour que ceux qui sont intéressés par vos éclairages puissent aller consulter cet ouvrage. Dans quelques instants, nous allons accueillir Aïs. Le portable a littéralement brisé son couple.
Et il y a sur Twitter, avec le hashtag Europe 1, Samuel, un petit tweet qui nous écrit un message, un petit clin d'œil. Du coup, cher Olivier Delacroix, avec le hashtag Europe 1, je me dois de vous dire que mon smartphone se met souvent dans la relation entre vous et moi.
Bah écoutez,
tant mieux, continuez à nous écrire.
C'était pour ça.
N'hésitez pas. Europe 1. Votre smartphone, est-ce que c'est un ami? Est-ce que c'est un ennemi dans votre couple? Vous nous racontez comment
Lapsus
ça se passe
révélateur,
chez vous.
Révélateur, Omblin.
Le 39-21, Twitter, hashtag Europe 1, vous l'avez compris.
Olivier Delacroix sur Europe 1.
Vous êtes les yeux rivés sur votre smartphone continuellement. Est-ce un problème pour votre conjoint? Olivier Delacroix vous écoute au 39-21.
Et avant d'accueillir Aïs, pour qui l'existence de ce téléphone et son utilisation dont son couple a fini par faire exploser son couple, nous sommes toujours avec Robert Neuburger, qui est, je le rappelle, psychiatre et thérapeute et auteur de l'ouvrage « Les territoires de l'intime ». Docteur, une dernière question avant d'écouter Aïs. On dit aussi que l'usage du smartphone dans le lit notamment provoque une baisse de libido. Est-ce que c'est vrai et pourquoi?
Alors là, effectivement, je pense que ça entraîne... Écoutez, la question est vraiment, elle va de soi. C'est-à-dire quand vous avez votre partenaire qui est plongé dans le fait qu'il regarde un film ou qu'il est plongé dans un échange absolument passionnant avec quelqu'un d'autre,
oui.
Très honnêtement, comme tue l'amour, c'est difficile de faire mieux.
Complètement, oui.
Mais c'est...
Non, donc, mais je vous posais cette question.
C'est pratiquement comme chez des couples où, par exemple, le chien dormait entre eux. Mais c'est l'équivalent.
D'accord. C'est pour ça que je vous posais cette question, parce que visiblement, c'est une pratique, mais vraiment très répandue, que ce téléphone aille jusque dans le lit, alors que bon, voilà, c'est pas censé arriver jusque-là, en fait. Vous restez bien évidemment en ligne avec nous, Robert Neuburger. Nous sommes en ligne maintenant avec Aïs. Bonjour Aïs, soyez la bienvenue sur l'antenne d'Europe 1.
Oui, bonjour.
Bonjour. Quel âge avez-vous et d'où nous appelez-vous?
J'ai 39 ans et j'appelle de Montpellier.
D'accord. Vous avez vécu, Aïs, une relation avec un homme pendant 2 ans et demi. Au bout de quelques mois, vous avez remarqué qu'il avait beaucoup d'activités qui ne vous plaisaient pas sur son téléphone. Alors, j'ai envie de vous demander ce que vous avez vu sur ce téléphone et comment vous l'avez vu.
Alors moi, ma relation était très particulière. Hein. D'abord... Le téléphone portable, selon moi, est un outil de communication aujourd'hui.
Normalement.
Ça devrait être un outil de communication pour prévenir, pour discuter, échanger, tout ça. Mais aujourd'hui, les dérives de certaines applications ont fait tout un outil complètement différent.
Qu'entendez-vous par là?
Aujourd'hui, c'est... Alors, ça peut être différentes choses. C'est plus un outil de communication, mais ça peut être un outil, par exemple, de contrôle sur l'autre, par exemple, de harcèlement. Aujourd'hui, par exemple, si dans une relation, quelque chose ne va pas et qu'on décide de mettre fin à la relation, le téléphone portable peut être un outil pour l'autre pour contacter, appeler, harceler, les SMS, les WhatsApp, par toutes les applications possibles et imaginables.
Aïs, vous soulignez là, en fait, le fait que ce portable, il nous a rendus finalement dépendants géographiquement, c'est-à-dire qu'on peut toujours être joignable à n'importe quel moment et donc qu'on peut contrôler l'autre à travers ce portable.
Voilà, exactement. Et par rapport à mon expérience, au bout de quelques mois, je me suis rendu compte. Je voulais simplement organiser une fête d'anniversaire à mon ancien compagnon.
Oui.
Et puis, c'était vraiment pas pour chercher des choses dessus, mais je me rends compte qu'effectivement, il était en train d'échanger depuis des mois avec une jeune femme de 20 ans.
Oui.
Chose que effectivement, je n'accepte pas. Et bon. puis je décide de le quitter. Mmh. Et puis je me rends compte qu'en fait il continue quoi. Donc en fait on peut tout cacher sur le téléphone portable, même si on promet à l'autre de pas le refaire, on peut très bien le refaire. Donc ça a été moi le déclencheur, c'est-à-dire que ça permet aussi de se rendre compte à quel point, malheureusement, à quel point aussi on peut faire confiance à l'autre personne ou pas, parce que le téléphone portable aujourd'hui n'est plus un outil de communication, c'est aussi un outil de l'intimité dans l'intimité, c'est-à-dire que c'est de l'intimité à l'intérieur de l'intimité d'un couple. C'est un jardin secret, mais virtuel, mais que l'on peut voir. Autant on ne peut pas accéder à l'imagination, autant on ne peut pas accéder à ce qui se passe dans la tête de quelqu'un, autant le téléphone portable devient matérialisé. Du coup, on matérialise quelque part, on peut matérialiser quelque part ce que pense vraiment une personne et ce qu'il est vraiment au fond de lui ou quelles sont ses intentions réelles. Mmh. C'est là où la frontière est vraiment, selon moi, assez différente d'avant, où le téléphone restait un moyen de pouvoir communiquer avec l'autre. Aujourd'hui,
uniquement.
On peut quasiment... Pardon ?
Je dis uniquement un moyen de communiquer avant que voilà ce smartphone
voilà.
Avec toutes les applications et toutes voilà tout. Est-ce que alors ce smartphone avant qu'il vous arrive tout ça avec votre compagnon, comment vous le regardiez ce smartphone avant de rencontrer cet homme, avant qu'il vous soit arrivé cette mésaventure de l'attraper en train d'échanger avec une jeune femme de 20 ans, est-ce que c'était quelque chose dont vous vous méfiez avec lequel vous n'étiez pas à l'aise, tout allait bien ?
Non. Tout allait bien, j'avais un rapport, j'étais souvent sur mon téléphone, mais je l'utilisais de manière, voilà, bon, parce qu'il y a des réseaux sociaux, il y a des Facebook, etc.
Oui.
Mais avant cette expérience avec cet homme, je voyais plutôt ça, pas du tout de manière négative. Et je me suis vraiment rendu compte que derrière ces applications aussi, il y a toute une industrie, il y a beaucoup, beaucoup d'argent et toute une industrie derrière qui incite les gens à importer sur leur téléphone des applications. Aujourd'hui, on retrouve même des applications où on propose aux gens de tromper leur conjoint ou leur conjointe parce que les messages qu'ils échangeraient, entre autres, avec d'autres personnes, ben, on ne les verrait pas. L'exemple de Snapchat, par exemple, où on peut envoyer un message à l'autre et puis ça s'efface instantanément. Il y a toute une industrie aussi derrière ça, des entreprises entières qui gagnent de l'argent pour pouvoir proposer aux gens de cacher des choses, une intimité dans l'intimité.
Alors,
de la relation.
Aïs, on va pouvoir continuer à en parler après une petite pause, justement continuer à parler de l'utilisation qu'on peut faire de ce téléphone à bon escient ou mauvais escient, et vous pourrez continuer même à en discuter avec Robert Neuburger qui peut-être vous éclairera sur certains aspects que voilà, vous soupçonnez de l'usage de ce smartphone. Vous restez bien évidemment en ligne avec nous, Aïs. On se retrouve dans quelques instants.
Et il y a Jules qui témoigne au 39-21. Jules a 27 ans. Mon portable est une vraie addiction, comme l'alcool, comme la drogue. Impossible de m'en passer jusqu'à ne plus écouter une conversation. J'avoue, même pendant certaines discussions avec ma femme, il m'arrive de ne plus prêter attention à ce qu'elle me dit.
Europe 1.
Vous êtes accro à votre téléphone ? Est-ce que ce téléphone est une source de conflit à la maison ? Vous nous racontez, Olivier Delacroix vous écoute au 39-21. Ce téléphone qui pleure si vous ne le touchez pas, si vous ne le regardez pas. Est-ce que vous êtes accro ? Est-ce que votre conjoint est accro ? Et est-ce que c'est une source de conflit ? Vous êtes avec Olivier Delacroix, 39-21, pour nous appeler.
Et lorsque Claude François a écrit cette chanson à l'époque, oui. S'imaginait-il que ce smartphone allait devenir une telle source de problèmes pour de multiples couples ? Nous sommes toujours avec Robert Neuburger, psychiatre et spécialiste thérapeute du couple, auteur du livre « Les territoires de l'intime ». Toujours avec vous, Aïs, je me retourne vers vous, Aïs. Vous avez l'impression que ce téléphone, vous nous l'avez dit, provoque de l'anxiété dans le couple, et puis finalement de la jalousie, puisque vous avez fini par découvrir une relation avec une jeune femme de 20 ans et entre cette jeune femme et votre conjoint. Comment est-ce que vous êtes sorti de cette relation ? Est-ce que vous avez parlé du smartphone ? Est-ce que vous l'avez évoqué ? Aïs ? Vous êtes là, Aïs?
Je suis là, excusez-moi.
Oui. Est-ce que vous avez entendu ma question?
J'ai bien entendu votre D'accord. question, je vous remercie. Comment je suis sortie de cette relation? Il faut savoir que l'utilisation du téléphone aussi dépend de l'individu, parce que l'individu avec qui j'étais était malheureusement quelqu'un avec une déviance de personnalité.
Ouais.
On parle beaucoup de pervers narcissique, mais j'aime pas trop ce terme. Donc c'était quelqu'un qui avait aussi beaucoup, qui était aussi assez paranoïaque. Mm-hmm. Donc le téléphone portable pour lui était devenu là où je parlais de contrôle tout à l'heure, hein, et je vous expliquerai ensuite comment je me suis sortie de cette situation. C'est que le téléphone portable aujourd'hui, sachant que nous pouvons, tout le monde en a un. Même les enfants en ont un. On considère à partir du moment où la personne en face a un téléphone portable qu'il doit en fait pouvoir être joint à n'importe quel moment, n'importe quand. Mm-hmm. Dans le cadre d'une relation amoureuse, là on reste donc dans la stricte relation amoureuse, l'un des deux partenaires a l'impression que parce que l'autre a un téléphone portable, il doit être joint n'importe quand, à n'importe quel moment. À partir du moment où on ne se plie pas donc à ce désir et à ce besoin d'être joint par de ce besoin de son partenaire, eh bien, ça crée des conflits et des soucis dans la relation, d'autant plus que si ce partenaire-là est quelqu'un de contrôlant, donc qui a des soucis déjà, un besoin de l'autre, eh bien, ça peut être aussi un outil de contrôle. Pour ma part, ça a été un outil de contrôle et de culpabilisation, puisque si j'étais en train de faire mes courses ou si je buvais un verre avec une copine, sachant qu'on a tous des appareils photos intégrés dans nos téléphones portables et qu'on peut échanger, qu'on peut envoyer des SMS, c'était voilà, envoie-moi un SMS, t'es là avec telle personne, envoie-moi une photo, pour prouver à l'autre qu'on est bien là où on est et qu'on fait ce que l'on fait.
C'est ce que vous avez fait, c'est ce que vous avez fait, Aïs? Est-ce que vous vous êtes retrouvée dans ce type de situation?
Au bout d'un moment, oui. Au début, non. Mais à un moment donné, oui. Vous savez, quand une relation comme ça, un petit peu tôt, à un moment donné, on est obligé de le faire, puisque on se dit, voilà, si on ne le fait pas, sachant que l'autre me culpabilise en disant, mais t'as un téléphone, t'as un appareil photo, tu peux très bien répondre au téléphone, on rentre un petit peu dans ce jeu-là, et on se retrouve finalement contrôlé et par le fait d'avoir un téléphone portable, et par le fait que notre partenaire nous contrôle à travers ce téléphone portable. Bon. On n'a plus, finalement, de liberté.
D'accord. En tout cas, Aïs, vous avez réussi à sortir de cette relation qui, visiblement, vous pesait pour ce contrôle hein, de l'autre sur vous, et puis surtout sur quelque chose, finalement, on a l'impression qu'il pouvait projeter sur vous ce que lui était en train de faire, puisque vous nous dites qu'il avait cette relation. Donc on sent que le smartphone au cœur de cette histoire-là, qui est passée, hein, je le rappelle, a joué un rôle central. Vous restez avec nous, Aïs, puisqu'on va pouvoir en parler avec Robert Neuburger, qui est psychiatre et thérapeute du couple, dans la dernière partie de cette émission.
Europe 1. Vous êtes accro à votre smartphone, il entraîne des disputes dans votre couple, de la jalousie peut-être. Vous nous racontez, Olivier Delacroix vous écoute au 39-21. Sur Europe 1, vous êtes avec Olivier Delacroix. Le smartphone à la maison, alors est-ce un tue-l'amour?
Nous écoutions justement Aïs qui nous contait l'histoire de l'explosion de son couple à cause de ce smartphone. Et nous sommes toujours en ligne avec Robert Neuburger. Vous êtes l'auteur des Territoires de l'intime. Vous êtes thérapeute spécialiste du couple, psychiatre. Docteur, lorsqu'on écoute Aïs qu'on apprend que l'autre essayait de contrôler l'autre, et puis on sent dans toutes ces histoires, des histoires de contrôle et puis d'espionnage et puis de jalousie, d'intrusion. Comment apprendre à ces couples à mieux communiquer? Y a-t-il des astuces que l'on peut mettre en place pour éviter de mettre à mal son histoire d'amour, son couple, son histoire? Je sais qu'elle est vaste, cette question.
Oui, j'ai trouvé le témoignage de cette jeune femme Montpellier extrêmement intéressant. La première chose qu'elle a dite, qui me paraît vraiment d'une grande justesse, c'est que ça permettrait, si on va regarder le smartphone de l'autre, d'accéder à l'intimité personnelle de l'autre. Mmh. Et effectivement, c'est quelque chose qui est de savoir ce que l'autre pense, que l'autre. Ça devient intime. Alors ça, c'est effectivement à la fois, quelquefois ça peut être rassurant, mais quelquefois ça peut être la source de difficultés. Maintenant, le problème que vous soulevez, c'est que ça peut être un outil de persécution, et véritablement, on peut effectivement, sans difficulté, introduire dans le smartphone de l'autre, moi je ne sais pas comment ça s'appelle, mais une puce, quelque chose, qui permet de savoir où il est physiquement, par exemple. Mmh. Oui, des choses comme ça. Et effectivement, si vous prenez un jaloux pathologique, eh ben, il va utiliser ça, il va essayer de pister la personne à distance. Mmh. Et puis si l'autre manifeste de se séparer ou autre, il peut y avoir des moyens effectivement d'envahir son espace internet de au travers du smartphone, d'exercer des persécutions.
Mais docteur, vous faites allusion à l'intimité de l'autre. C'est une notion forte dans un couple. Voilà, l'intimité de l'autre. Dans un couple, on a l'impression de tout partager. Or, est-ce que cette intimité-là, qui existe, bien évidemment, vous ne pensez pas qu'elle est au centre, le respect de cette intimité de l'autre, elle est au centre de tous ces problèmes avec ces smartphones ?
Alors, c'est une question de proportion. Il est évident que pour créer un couple, on doit donner de notre intimité personnelle.
Bien sûr.
Il y a des choses que nous gardions pour nous. L'intimité personnelle, c'est pas seulement au niveau de l'espace, c'est aussi les pensées, c'est aussi nos compétences aussi, par exemple. Et donc, on doit partager ça avec l'autre, le mettre dans un pot commun qui s'appelle l'intimité du couple.
Oui.
Et à ce moment-là, ça ne nous appartient plus entièrement. Un exemple qui est vraiment évident, c'est-à-dire que dès que vous êtes en couple, vos organes sexuels ne vous appartiennent plus. Mm-hmm. Vous ne pouvez plus en disposer comme vous voulez, ça appartient à l'intimité du couple. Mm-hmm. Donc, au fond, les couples s'arrangent toujours pour garder, bien évidemment, heureusement, pour garder des choses pour eux-mêmes. Mmh. Par exemple, des couples où on doit tout se dire, à mon avis, ne durent pas extraordinairement longtemps.
En tout cas, on aura compris que cette intimité, vous nous en parliez, docteur, vous êtes l'auteur de cet ouvrage, Les territoires de l'intime, donc ça semble assez compliqué quand même de délimiter les frontières de cette intimité et les contours de cette intimité. En tout cas, merci beaucoup. Malheureusement, le temps presse. Laurence Boccolini, que vous allez retrouver dans quelques instants, et là avec Patrick Bruel, qu'elle va recevoir dans quelques instants. Donc, merci beaucoup à Robert Neuburger de nous avoir apporté ces éclairages. Merci à Marine, à Paulette, à Aïs de nous avoir appelé. C'est la fin de cette émission. Si le portable est un outil formidable, bien évidemment, attention à ce que son utilisation ne devienne pas frénétique et dérangeante pour l'autre. Si vous êtes accro, il faut apprendre à partager des moments à deux sans téléphone. C'est facile, il faut tout juste essayer. Essayer de vous en défaire petit à petit. Il est important d'en prendre conscience pour ensuite avoir une utilisation plus saine et surtout maîtriser de son portable. Vous pouvez bien évidemment en discuter sur notre page Facebook et sur les réseaux sociaux, et comme tous les jours à partir de, comme aujourd'hui par exemple, nous retrouver sur le compte Instagram, mon compte Instagram, Olivier mm-hmm. Delacroix officiel, où je vous poserai une question tous les jours et auquel vous pourrez répondre et témoigner et aller plus loin, même contacter Angèle, la journaliste de l'émission, que je remercie au passage de m'avoir accompagné cette semaine, comme vous ma chère Ambine, comme Merci. Katia Maxime à l'éditorial, et comme à Boris Paczynski qui était à la réalisation de cette émission toute la semaine. Je vous laisse maintenant avec l'excellente Laurence Boccolini, avant bien évidemment quand
le
même
sujet de lundi.
De vous annoncer, parce que nous sommes le week-end déjà, vous voyez, lundi nous parlerons de ces personnes dites hors normes qui ont une maladie, un handicap, qui en ont fait une force. Si vous avez un handicap ou une maladie, mais que c'est ce qui vous a permis d'exercer un métier que vous faites aujourd'hui, si vous cultivez votre différence et que cela vous a apporté dans le domaine professionnel, si un membre de votre entourage a fait de son handicap une force, appelez-nous au 3921 pour nous parler de votre histoire.
À lundi, merci Olivier Delacroix.
J'étais ravi de passer cette semaine avec vous et je vous laisse maintenant avec Laurence. On est très en retard, donc on va.
C'est pas grave, notre invité est en retard aussi.
Bon, alors ça va
bien, Patrick Bruel arrive. Hein.
Bon, très bien. Et écoutez, oui, il paraît qu'il est dans les couloirs là, il est tout
c'est
juste là.
Ouais, ouais. Chaud.
Bon, alors, une bonne émission, Laurence,
merci,
une bonne émission, Marlène,
bon
et à lundi. Ciao,
oui, à lundi.
Ciao. Europe 1.